Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne depuis Vivatech. Deuxième jour ici, vous le savez, BFM Business qui a investi avec son plateau en plein cœur de ce salon. Eh bien, ce rendez-vous dédié aux technologies, et vous l'avez vu, j'ai deux invités sur le plateau de Tech & Co. Alors j'ai déjà Miroki, un super petit robot made in France, et son papa qui est là, Jérôme Monceau. Salut.
Bonjour.
Jérôme.
Salut.
Fondateur et président d'Enchantil Tools. Alors si vous êtes un fidèle de Tech & Co, vous savez qu'on adore cette boîte-là. On s'était vu au CES de Las Vegas.
Oui.
Et on se revoit ici à Vivatech parce qu'on aime bien suivre les avancées technologiques de ce petit robot. Parce que la robotique, Jérôme, on se rend compte, plus le temps passe et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, que même les géants aujourd'hui américains s'emparent de ce truc-là. Optimus avec Tesla, on voit qu'il y a énormément. Figure.ai, qui est une boîte qui a l'air assez bluffante, même Boston Dynamics. Et on a un savoir-faire, nous, ici, avec vous, donc Enchantil Tools. Juste un mot sur ce projet, enfin, qui est plus qu'un projet aujourd'hui, parce que c'est du concret. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer, en fait ?
Alors là, on est en train de fabriquer deux personnages qui s'appellent Miroka et Miroki.
C'est Miroki, hein ?
Ça, c'est Miroki. Le jaune, c'est Miroki. C'est un garçon. Et il y a sa sœur jumelle qui s'appelle Miroka. C'est des personnages d'animation sous la forme de robots. Et ils ont deux missions dans le quotidien. La première, c'est de déplacer automatiquement des objets. On appelle ça de la logistique sociale. Ils vont prendre des chariots, des plateaux, des paniers, tout ce qui peut rendre service dans des hôpitaux, des hôtels, des restaurants, des musées, etc. Et puis leur deuxième mission, c'est d'apporter du merveilleux au quotidien.
Le merveilleux, on le voit, c'est la sympathie, la bienveillance, l'empathie qu'il dégage, hein, parce qu'il est tout mignon, bien évidemment. Hein. C'est un mix de manga, de dessins animés, enfin voilà. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce projet, vous l'avez construit depuis 2021. C'est quoi les dernières avancées technologiques ? C'est quoi les progrès que vous avez pu réaliser ces derniers temps ?
Alors déjà, oui, effectivement, en 2021, on lance le projet. C'était fin 2021. On a mis 12 mois à monter le proto, mais parce qu'on sait faire. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la robotique. Oui. Vous savez qu'en France, il y a eu Aldébaran. Il y a des experts qui savent vraiment bien faire ce genre de machine.
Vous étiez chez Aldébaran avant.
Hein. J'étais chez Aldébaran, bien sûr. Et puis, une bonne partie de l'équipe aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on a pu aller aussi vite. Et là, aujourd'hui, on est rentré dans la phase industrielle. Ça veut dire qu'on est en train de commencer à produire des robots à l'échelle. Alors, cette année, c'est un petit nombre, on fait une trentaine, mais l'année prochaine on fait 500 robots. Donc là on commence à monter des usines, des pilot lines, on met en place tout le processus de qualité et toutes les dernières technos qui nous manquent pour réussir à amener ça sur le marché à une échelle globale.
Alors ce qui est intéressant, c'est que ce robot a des bras, des mains, il n'a pas de jambes en fait, et c'est je trouve, c'est toute l'originalité. Il se déplace avec une boule,
oui,
qui est en dessous de lui.
Oui, il est en équilibre en permanence, c'est ce qu'on appelle un pendule inverse, et il y a des raisons très pragmatiques derrière ça. Par exemple, un bipède, donc deux jambes, on en voit de plus en plus aujourd'hui, notamment du côté américain, et ça demande énormément de moteurs, peut-être une dizaine, voire une quinzaine, voire plus encore sur certains. Et quand vous savez que le prix, que le poids du robot et que les risques de panne viennent principalement des moteurs, vous comprenez bien qu'il faut les limiter. Ici, on a seulement trois moteurs pour faire un pendule inverse. C'est hyper économe et l'avantage, c'est que ça consomme presque pas. On pourrait dire, oui, mais comme il est là en train de s'équilibrer en permanence, en fait, il consomme. Mais non, parce que comme il est équilibré quasiment tout le temps, il n'a pas besoin de force pour se contrôler. Son dispositif de navigation prend moins d'énergie que son visage ou que son CPU, par exemple.
Et donc là, ce sont les capteurs, par exemple, j'imagine un gyroscope qui va en temps réel analyser pour qu'il reste debout.
C'est ça.
Qui garde l'équilibre.
C'est des technologies qui sont maintenant bien maîtrisées, qui tournent en temps réel. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dès que le robot il sent un tout petit déséquilibre, comme vous avec votre oreille interne, eh bien, il vient compenser en déplaçant la boule dans un sens ou dans l'autre. Et ça lui donne une énorme stabilité, bien plus grande que tout ce qu'on avait pu espérer.
Jérôme, est-ce que ce robot déjà s'amuse dans de vrais environnements ? Il est commercialisé ? Est-ce que vous êtes toujours en phase de test ? Et s'il y a des tests, dans quel environnement ?
Oui, alors cette année, on vend une vingtaine de robots. Là, c'est parti, on va livrer nos premiers.
Mais qui sont vos clients ?
Alors, on a plusieurs types de clients. On a déjà des chercheurs, dans des laboratoires. Par exemple, on a l'ISIR en France, qui est le plus gros laboratoire de robotique français. Et puis, on en a au Japon, on en a aux États-Unis, on en a un petit peu partout, des chercheurs. On a également des distributeurs, parce que nous, on se prépare à vendre quand même massivement. Mmh. Donc, on a besoin de faire gagner des gens. On va faire gagner des distributeurs un peu partout dans le monde de la même manière. Et puis, on a aussi des end-users. Là, on vient de vendre, on va vendre un cabinet d'orthodontie aux États-Unis. Ils sont fans de robots depuis le début. Ils en ont déjà déployé et ils inventent une nouvelle façon d'accueillir les gens, de leur rendre service. Et donc, nous, on explore ça avec eux pour, dans le but de vendre à d'autres derrière.
Mais typiquement, on prend l'exemple du cabinet d'orthodontie, c'est très intéressant. Ce robot sera là pour quoi ? Pour accueillir les patients, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il va faire ?
Oui, alors. Il y a certains qui l'utilisent pour accueillir, pour divertir, pour rendre service aussi, apporter une bouteille d'eau ou voilà, plein d'usages ouais. comme ça pour ouais. l'accueil.
D'accord.
On a également la même chose du côté patient, et donc patient dans le cas de l'hôpital, où on va pouvoir être à leur service, leur apporter des objets, les divertir, etc. Mais on a aussi, et surtout peut-être, le staff, c'est-à-dire les aides-soignants, par exemple, dans le cas de l'hôpital, ou le staff d'un hôtel, comment on peut se mettre à leur service et comment on peut les aider à faire leur métier. J'ai coutume de dire qu'on veut leur apporter des pouvoirs magiques.
Ce qui est incroyable, c'est déjà le pouvoir magique de ce robot. Derrière nous, il y a énormément de monde qui est venu et qui est happé par ce robot. J'imagine que vous voyez ça au quotidien. Peut-être que vous vous en rendez même plus compte, mais c'est dingue. Là, il y a plein de gens qui regardent comment il évolue. Alors, ils écoutent ce qu'on dit parce que j'espère que c'est intéressant. Mais voilà, il y a une attirance envers ce type de technologie.
Alors, très clairement, surtout que là...
On arrive à l'expliquer, ça, ou pas ?
Pardon ?
On arrive à expliquer cette attirance envers ce type d'appareil ?
Je ne sais pas si c'est une bonne explication, mais les robots, ils ont toujours été faits de la même manière. Quand on les regarde, quand on les voit à la télé, ce qu'on voit, c'est des espèces d'appareils militaires. Ils projettent un futur qui est un peu dystopique, selon moi. Mmh. Et ce qu'on a voulu faire avec Enchanted Tool, c'est bousculer ça. Dire, non, la robotique, ce n'est pas forcément ennuyant ou militarisé ou je ne sais quoi. Ça peut être là aussi simplement pour nous accompagner, pour nous aider à définir une société où l'intelligence artificielle peut partager notre quotidien dans une logique de fun, dans une logique d'utilité, mais aussi avec de profondes valeurs éthiques.
Alors, évidemment, l'intelligence artificielle générative est en train de bouleverser énormément de secteurs. Est-ce que ça bouleverse vos plans, Jérôme, aujourd'hui ? Est-ce qu'en 2021, vous imaginiez qu'un ChatGPT 4o allait arriver, créer une interaction incroyable avec des humains ? Et est-ce que tout ça, toute cette technologie, alors je parle d'OpenAI, mais évidemment des large language models, il y en a beaucoup d'autres, est-ce que tout ça va transporter ces robots dans une nouvelle ère, à votre avis ?
Alors, oui, ça bouleverse nos plans, mais ça les a bouleversés il y a 10 ans. C'est-à-dire au moment où on sort Pepper avec Aldébaran, SoftBank, etc., on a des outils d'intelligence artificielle qui fonctionnent coussi-coussa. C'est pas terrible, quoi. Et on comprend ce qu'il faut. On comprend comment ça doit fonctionner à l'intérieur du robot. Et c'est là où on commence à édifier les plans de ce robot-là. Et là, en voyant justement les arrivées de GPT, GPT, c'est pas 2021, c'est un peu avant. Mm-hmm. Y a tous ces gros algos, on commence à voir des résultats 2018, 2019. Donc on se rend compte qu'il y a un mouvement qui va arriver, qui va être très important. Et en fait, la robotique humanoïde accélère énormément grâce notamment au progrès en intelligence artificielle. Avant, c'était comme le smartphone, il fallait coder une application pour avoir un résultat. Maintenant, on est capable, grâce aux IA, de générer automatiquement le comportement du robot. Et ça change complètement le paradigme de la robotique humanoïde.
Jérôme, quand on voit la démo de Figure.ai, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo,
évidemment,
qui est incroyable. Il y a d'autres exemples comme ça. Il y a plein de startups aux États-Unis qui font des trucs de dingue. Un, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est bidon ou pas ? Parce que c'est votre métier. Nous, on est bluffé, mais voilà, votre regard de professionnel. Ouais. Et deux, est-ce que demain, Miroki fera tout ça ?
Alors, je trouve que ces grands humanoïdes, ils sont énormément dans la promesse. On l'a été aussi, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on était dans une promesse un peu illimitée. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire. Moi, je suis revenu un peu de ça. Ce que je sais, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir tout faire. Prendre une feuille de papier, prendre un câble, prendre un truc attaché, ça reste toujours extrêmement compliqué. Que ce soit pour les mains qui vont coûter extrêmement cher, le contrôle, les risques de panne, tout ça. La réalité industrielle derrière, elle va être cruelle. Mais il y a plus que ça. C'est l'usage. C'est-à-dire comment moi, qui bosse dans un hôtel, dans un musée, machin, comment je sais ce que le robot il peut faire ou pas faire? Et ça, vraiment, ils ne l'expliquent pas. Ils ne prennent pas du tout en compte l'utilisateur. Donc, je crois que le futur, il est... Et ça va être incroyable ce qu'on va faire avec les IA, mais c'est pas tout à fait ce genre de choses où là on est encore dans des expérimentations de laboratoire selon moi.
Figure.ai, c'est bidon ou pas?
Ah bah, je vais pas dire ça, les robots ils sont super, la méca elle est super.
Non, mais rappelons ce qu'on a vu, enfin je pense que vous avez vu la même vidéo que moi, c'est-à-dire qu'il y a un humain qui parle à Figure.ai qui lui dit qu'est-ce que tu as devant la table, et il arrive à analyser qu'il a des petites boules de papier, une poubelle,
et ça, c'est excellent.
Un égouttoir et une assiette, et en fait il va comprendre le contexte de chaque objet.
Exactement.
Et la personne va lui dire range-moi cette table, il va prendre les boulettes de papier, va les mettre dans la corbeille, etc.
Oui.
Ça c'est l'IA générative, on
c'est
est d'accord.
C'est l'IA générative, mais et ça montre
arrive,
bien.
Il faut que ça arrive
et,
dans ce type de choses.
On a ça déjà aujourd'hui. En fait, ce que fait le robot, c'est qu'il comprend un certain nombre de symboles dans son environnement et il sait comment les associer. C'est du sens commun. C'est là où les IA sont fortes. Et ça, on a déjà ça aujourd'hui dans le robot. Dans Figure, donc ça ouvre ça quand même, hein, c'est respect. Hein. Il les exprime joliment, ils illustrent ce que va pouvoir faire le genre d'IA. Par contre, la manière dont ça va s'exprimer vraiment dans le business, en interaction avec les utilisateurs, ça ne sera pas comme ça. On n'aura pas un robot à 150 000 euros ou 500 000 euros qui va remplir le lave-vaisselle.
Non, ça c'est que ça coûte très cher quand même. Miro, qui va parler un jour?
Il parle déjà.
Il parle déjà.
Ah, il est connecté à ChatGPT.
J'entends faire des petits roudoudous, des petits trucs comme ça, mais après on pourra avoir un vrai dialogue avec lui.
Ouais, dans la mesure où alors vrai dialogue, c'est toujours compliqué parce que l'IA de manière générale, il y a une certaine mémoire, hein. Tu sais, Gemini de Google là, c'est 11 millions de tokens, c'est beaucoup moins sur ChatGPT, et ça détermine une mémoire,
la profondeur en fait de la
donc,
connaissance.
Donc qu'est-ce qu'il se souvient de toi, ce que vous avez fait il y a 3 mois, il y a 6 mois, tout ça va être des choses qui sont un peu compliquées, et je crois que les architectures sont aussi en train de se trouver aujourd'hui, notamment sur la dimension données personnelles, comment tout ça fonctionne avec nos règles en Europe qui sont bien, comment on va s'approprier ça, comment on va travailler la mémoire du robot, est-ce qu'il a le droit d'oublier ou pas, enfin tu vois, ça va être des questions intéressantes.
Est-ce que le robot va combattre la solitude? On voit qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui sont seuls, surtout les personnes âgées qui se retrouvent dans des situations parfois un peu complexes. Est-ce que ça peut être l'une des réponses, justement, la solitude, ces robots, dans quelques années?
J'en suis convaincu, vraiment. On va dans des maisons de retraite très régulièrement, on rencontre le personnel des maisons de retraite et qui sont face à des problèmes compliqués, vous savez, les problèmes de non seulement de recrutement, mais en plus d'argent, quoi, globalement.
Et l'empathie et l'écoute.
Et surtout, il y a des choses qu'on peut pas faire. Par exemple, les personnes âgées, souvent, ce qu'on voit, en tout cas, j'ai vu le cas d'une dame qui a des angoisses nocturnes. Le soir, elle a peur. Elle a peur longtemps et ça dure plusieurs heures.
Bien sûr.
Et il y a pas quelqu'un qui peut rester en permanence, c'est pas la réalité de ce genre de lieu.
Et alors, type d'objet pourrait pallier à ça?
Je pense, oui. Je pense.
À quel horizon, à votre avis?
Je pense, alors personnellement, moi je connais mon plan, je sais comment je fonctionne. En 2027 par exemple, on aura 4000 robots sur la planète, donc ça reste raisonnable à l'échelle de ce qu'on pourrait imaginer, et je pense que c'est plutôt aux environs de 2029 selon moi où on pourrait voir la robotique arriver dans le domaine du personnel. En tout cas, on va travailler dans ce sens-là.
C'est génial, merci beaucoup Jérôme d'avoir pris le temps pour nous expliquer un petit peu la stratégie d'Unchantil Tools, et on a envie de faire un hug à Miroki, il est tellement mignon, hein. Voilà. Merci Miro qui est venu sur le plateau de Tech & Co.